va relire quelques versets dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 12, les versets 4 et 5, où Paul disait ceci: « En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. » Ceux qui étaient là au début du mois, vous vous rappelez que c'est là-dessus que j'ai prêché pour le culte de famille. Pour ceux qui n'étaient pas là, vous avez une excuse, vu qu'on avait eu des problèmes avec l'enregistrement. Mais pour vous faire une petite révision, on va dire, pour ceux qui ont raté le premier épisode, on avait vu que Paul aime bien utiliser cette image du corps pour représenter l'Église. Et on avait insisté sur le fait que le Christ est la tête de ce corps, c'est lui qui le dirige, c'est lui qui en prend soin. C'est de lui aussi que vient la vie, c'est lui qui donne la vie à tout le reste du corps. Et ensuite, on a vu que nous-mêmes, nous étions les membres, les organes de ce corps, c'est-à-dire tous avec des utilités, des facultés différentes, tous utiles et importants pour ce corps. Et un des derniers points qu'on avait évoqué aussi, c'était que les membres de ce corps dépendent les uns des autres. Alors aujourd'hui, j'aimerais creuser un peu plus cette image et notamment deux aspects qu'on trouve lorsqu'on décortique un petit peu ce que Paul veut dire au travers de cette image du corps de Christ. Et le premier aspect sur lequel je voudrais me pencher avec vous, c'est l'unité de ce corps. Le corps de Christ, c'est un corps qui est uni. Donc je disais, un des derniers points qu'on avait abordé, c'était les membres dépendent les uns des autres. On l'a vu dans le deuxième verset qu'on a lu, donc Romains 12, le verset 5, c'était « De même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. » Lorsque Paul utilise cette image, que ce soit avec les Romains ou avec les Corinthiens, c'est pour montrer à quel point les membres sont interdépendants. Ils dépendent les uns des autres, ils sont unis les uns aux autres. Et c'est à la fois une constatation qui fait qu'on est tous unis, mais c'est aussi un but vers lequel on doit tendre, quelque chose qu'on doit rechercher. L'Église, vous le savez, elle est appelée à vivre dans l'unité. Et non seulement nous avons besoin les uns des autres, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, mais on doit aussi chercher, nous efforcer d'aller vers cette cohésion au sein de l'Église, cette unité, cette union au sein de l'Église qui nous permet de vivre comme un corps qui est uni. Ce corps, il est uni pourquoi ? Parce que c'est Christ qui l'a construit, c'est Christ qui l'a formé et qu'il a bien choisi chacune des parties qu'il a mis dedans. Ce corps, c'est pas seulement des organes qu'il a mis là les uns à côté des autres, mais il les a attachés les uns aux autres. C'est ce qu'on voit dans l'Épître aux Éphésiens, notamment, au chapitre 4, au verset 16. Paul encore utilise cette image et dit « C'est de lui, donc de Christ, que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. » Un corps humain, c'est vraiment non seulement des organes, mais si les organes y sont séparés, vous n'avez plus un corps. Hein. C'est un cadavre, et encore, c'est des morceaux de cadavre. C'est pas très joli comme image, mais voilà, un vrai corps humain, un corps vivant, c'est plus que juste les organes individuels qui le composent. C'est ces organes qui sont tous connectés les uns aux autres, qui communiquent les uns avec les autres. On a des jointures au niveau des articulations qui permettent de bien tenir le squelette. On a des nerfs qui traversent tout le corps, qui permettent d'envoyer des messages depuis la tête jusqu'aux extrémités de nos membres. On a tout le système sanguin là, qui permet au sang de circuler partout dans le corps. Tout ça, ça fonctionne ensemble et tout est connecté. On ne peut pas prendre un organe tout seul et puis espérer qu'il va continuer à vivre sa vie. Et non seulement ces organes sont unis entre eux, mais ils se coordonnent, ils travaillent ensemble. J'avais dit la, la dernière fois, mais on n'a pas une jambe qui décide d'un seul coup toute seule d'aller marcher toute seule et de partir dans une direction, ça va causer des problèmes. Non, ne serait-ce que si on veut se déplacer, ben c'est le cerveau qui commence par prendre la décision d'aller dans une certaine direction et puis qui va commander aux deux jambes de fonctionner ensemble. Il n'y en a pas une qui part d'un côté, l'autre de l'autre, parce qu'au bout d'un moment, ça risque de tirer un petit peu. Non, il faut que les différents membres du corps travaillent de concert. Si chacun tire dans un sens et un autre tire dans l'autre, au final, ça se déchire et puis ça crée des douleurs. C'est pas efficace, on peut rien faire avec ça. Et si vous réfléchissez, même une tâche aussi simple que le fait de marcher, ça utilise beaucoup de parties dans notre corps. Est-ce que vous savez le nombre de muscles qu'il y a dans une jambe ? Bon, ben moi non plus, hein, j'ai pas regardé, vous inquiétez pas. Mais voilà, on sait qu'il y a plein de muscles différents, il y a plein d'os différents dans les jambes, jusque dans les pieds et les orteils. Et tout ça, il faut le coordonner pour arriver à faire avancer le corps. C'est pas juste j'appuie sur un bouton et puis là d'un seul coup le corps se déplace. Non, il faut que le cerveau, c'est inconscient parce qu'on a appris à le faire, mais notre cerveau il réfléchit à envoyer des signaux au travers des nerfs pour activer chaque muscle individuellement de la bonne manière pour que le corps arrive à avancer. Si un des muscles ne reçoit plus les signaux, ben la jambe ne fait pas le bon mouvement et puis on trébuche, on risque de se faire mal. Et beaucoup des tâches que nous faisons, en fait, elles nécessitent beaucoup de coordination entre tous les éléments de notre corps. C'est de la même manière, en fait, dans l'Église, c'est un peu pareil. On est beaucoup de membres dans une Église. Mais le corps, il n'agit pas en utilisant un seul de ses membres. En général, lorsqu'il a une tâche à accomplir, mais il va utiliser plusieurs de ses membres entre eux, qu'il va falloir coordonner, qu'il va falloir faire travailler ensemble. Et la façon dont Christ a construit le corps, c'est étudié en fonction de ce qu'il attendait de ce corps. Il a placé des articulations, des jointures, on a toutes sortes de vocabulaire là qui sont utilisés pour montrer que tout ça, c'est connecté d'une certaine manière pour pouvoir arriver à le faire travailler ensemble de manière coordonnée. Les liens qui existent entre nous, ce n'est pas anecdotique, ce n'est pas dû au hasard. C'est Christ qui a tissé tous ces liens pour nous unir les uns aux autres. Dans une autre épître, celle aux Colossiens, il reprend encore cette image-là en disant, au chapitre 2 et au verset 19, je vais lire juste à partir du début de la phrase suivante, « C'est pourtant d'elle que tout le corps, bien nourri et solidement assemblé par ses articulations et ses liens, tire la croissance que Dieu donne. » Là, il fait allusion à la tête qui donne la croissance au reste du corps. Mais moi, ce qui m'intéresse encore plus dans ce verset, c'est que tout le corps, il est solidement assemblé. Il n'y a pas un organe là, qui tient par un petit fil qui est prêt à tomber du corps. Non, lorsque Christ ajoute un organe au corps, c'est vraiment uni, vraiment bien attaché au reste pour pouvoir fonctionner avec le reste. Lorsqu'on regarde un corps humain, on peut s'imaginer, on peut comprendre assez vite que cette unité, elle n'est pas immédiate. Parfois, on a tendance à se penser que c'est naturel tout ça, parce que suivant notre âge, ça fait un certain nombre d'années que notre corps on a l'habitude de le faire bouger, de le manipuler, mais réfléchissez à un bébé qui vient de naître. Est-ce qu'il est conscient déjà qu'il a des bras, qu'il a des jambes? Et est-ce qu'il est capable de les bouger, de les déplacer d'une manière contrôlée? Non. Un bébé, il lui faut un certain temps pour que son cerveau commence à réaliser que ce qu'il voit passer devant ses yeux, parfois, c'est ses propres mains. Et c'est lui-même qui contrôle les gestes que font ses mains. Puis, petit à petit, il commence à arriver à saisir des choses, à les déplacer, à les utiliser. Et puis même la marche, il faut l'apprendre aussi. Et il ne se met pas debout tout de suite pour avancer. Hein. Il y a toutes sortes d'étapes qui prennent des mois et des mois. Et tout ça, c'est le cerveau qui a besoin d'apprendre comment utiliser chacun de ses membres. Et cet apprentissage même, ce n'est pas juste pendant l'enfance, quand on est bébé. Là. Tout au long de notre vie, on continue à apprendre à se servir de notre corps de manière toujours plus poussée, toujours plus avancée. Imaginez n'importe quel professionnel qui travaille des gestes particuliers. Imaginez, je ne sais pas moi, un médecin, un chirurgien qui va travailler la précision quand il fait une opération, ou un artiste qui va travailler toujours pour arriver à soit dessiner, à sculpter, à faire des choses toujours avec toujours plus de maîtrise de ses gestes et de précision dans ce qu'il fait. Imaginez, je ne sais pas, un sportif qui travaille parfois même toujours les mêmes gestes, mais pour être toujours plus précis, toujours plus efficace dans ce qu'il va faire. Et puis même plus tard, lorsque certaines parties de notre corps commencent à faiblir avec l'âge, et bien, notre cerveau continue à apprendre comment compenser les facultés qu'on commence à perdre. Quand notre vue commence à baisser, quand notre ouïe devient un petit peu plus dure, ben on s'adapte, on trouve d'autres façons de faire les choses qui nous permettent de continuer à vivre. Oui, tout au long de notre vie, notre corps, il apprend finalement à se servir de lui-même. Notre cerveau apprend à se servir du corps pour pouvoir en faire quelque chose d'utile. Et dans l'Église, c'est un peu pareil. C'est pas inné, la coordination entre tous les membres. C'est pas quelqu'un qui se convertit, allez, hop, est baptisé, puis ça y est, immédiatement, la personne sait comment elle va être utile dans le corps de Christ, elle sait comment servir dans l'Église, et puis tout le reste de l'Église aussi sait comment faire appel à elle. Non, il y a un apprentissage. Il y a besoin que le corps découvre un petit peu comment ça va se connecter, comment ça va fonctionner. Et tout ce temps que nous sommes, on a eu besoin de cet apprentissage, et on continue dans cet apprentissage. Le corps, il doit apprendre à utiliser chacun de ses membres, mais aussi pour que ça puisse communiquer comme ça, il faut que ses membres soient conscients les uns des autres. Et cette conscience qu'on a les uns des autres, c'est non seulement dans la façon de travailler ensemble, mais même dans ce que nous ressentons les uns pour les autres, ce que nous ressentons avec les autres. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12, dans les versets 26 à 27, Paul dit que si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Être ce corps de Christ, c'est ça, c'est apprendre à travailler ensemble, apprendre à se coordonner, mais c'est aussi se soutenir l'un l'autre, c'est souffrir ensemble aussi parfois. Comme lorsque je suis blessé, c'est pas juste la partie de mon corps qui est blessée qui souffre. C'est mon cerveau qui ressent cette douleur-là et tout mon corps peut en être affecté. Si je me suis blessé au pied, non seulement je vais avoir mal, mais aussi ma démarche, elle va changer parce que je vais boiter, parce que je vais peut-être avoir besoin de mes bras pour m'aider avec des béquilles. Oui, lorsque un membre est affecté, le reste du corps en ressent les effets aussi. Et c'est pareil dans l'Église. Une chose qui est encore plus importante dans ce corps, c'est ce qui nous unit. Qu'est-ce qui nous unit ? C'est cette vie de Christ qui coule en nous. Et Paul l'exprime d'une manière particulière dans l'Épître aux Éphésiens. C'est dans Éphésiens chapitre 1, les versets 22 et 23. On a déjà lu ce verset aussi la dernière fois. Il dit « Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Christ est la tête de ce corps, mais si c'est ce sur quoi j'ai insisté la dernière fois, là, ce sur quoi j'aimerais plus me pencher avec vous, c'est la fin de ce verset. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Bon, c'est une tournure un peu bizarre, peut-être à comprendre, et dans la Bible en français courant, c'est dit d'une manière un petit peu plus compréhensible. Tu peux m'afficher juste la diapo suivante. Voilà. Dieu a mis toutes choses sous les pieds du Christ et il l'a donné à l'Église comme chef suprême. L'Église est le corps du Christ. Et là, donc cette histoire de plénitude qui remplit tout en tout, c'est traduit. C'est en elle, l'Église donc, que le Christ est pleinement présent, lui qui remplit tout l'univers. pourquoi c'est important de faire attention à ça? Ben c'est un pasteur, peut-être certains connaissent David Porter, qui écrivait ça il y a quelques semaines. Je suis tombé dessus, ça m'a frappé dans la formulation qu'il a utilisée. Il disait que ce qu'on vient de lire, là, ça ressemble à une affirmation de son omniprésence. Il fait que Christ est présent partout, qui est une des caractéristiques de Dieu. Christ remplit toutes choses, mais il est présent dans l'Église d'une manière toute particulière. Dieu est partout, mais il n'est pas partout de la même manière. Là où deux ou trois membres de son peuple sont assemblés en son nom, il réside en eux d'une façon toute spéciale, et c'est pour ça qu'il est important d'aller à l'Église, entre guillemets, parce que Dieu se révèle en chacun de nous, c'est vrai, mais il se révèle d'une manière spéciale quand son peuple est rassemblé. C'est vrai que c'est parfois quelque chose qu'on est tenté de croire ou de se dire, oui, mais Dieu, il est partout, que je sois à l'Église, que je sois à l'extérieur, Dieu est présent partout. C'est vrai. Mais ce qu'on vient de lire là, de la parole de Dieu, ça nous montre une autre facette de cette même vérité, qui est que lorsque nous nous unissons, la présence de Christ, elle est exprimée d'une manière différente, d'une manière encore plus profonde, encore plus spéciale. Christ est présent partout, mais il est vraiment d'une manière particulière au sein de l'Église. Il remplit tout l'univers, mais c'est dans l'Église qu'il est pleinement présent et que cette présence peut se manifester. Vous vous rappelez que sous l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, Dieu était omniprésent aussi, Dieu était présent partout à la surface de la terre, mais il était présent d'une manière toute particulière dans le lieu très saint, au centre du tabernacle. Lorsque on trouve des versets où il est dit que le Seigneur campe au milieu de son peuple, c'est une expression qui montre que Dieu aime bien vivre au sein du peuple, mais c'était même à prendre au sens littéral, parce que vous aviez le tabernacle avec le lieu très saint, là où résidait la présence glorieuse de Dieu. Autour du tabernacle, vous aviez différentes familles de la tribu de Lévi qui étaient réparties des quatre côtés. Et puis autour de cette tribu de Lévi, vous aviez les autres tribus d'Israël qui étaient tout autour. Et donc la présence de Dieu était au milieu du peuple. Et aujourd'hui, on n'a plus le tabernacle avec cette présence de Dieu qui réside là, mais Dieu continue à résider au milieu de son peuple, au milieu de nous, l'Église. L'Église, ce n'est pas un concept humain qui a été inventé là, par les premiers apôtres pour contrôler un petit peu les fidèles. Ce n'est pas une hiérarchie religieuse, on va dire, là, qui aurait été inventée par les dirigeants de l'Église et qui voudraient comme ça un peu imposer leur volonté au reste du peuple. Non, l'Église, c'est quelque chose que Dieu a voulu. C'est quelque chose que Dieu lui-même a créé. C'est l'expression du désir de Dieu de voir son peuple uni dans un même esprit, une même pensée et un même amour. C'est pour ça que dans Hébreux, au chapitre 10, dans les versets 24 à 25, l'apôtre dit ceci: « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour du retour de Christ. » Et vous connaissez probablement ce verset, vous l'avez probablement pour certains entendu un certain nombre de fois. On insiste souvent sur ce verset au centre, hein, n'abandonnons pas notre assemblée. Continuons de venir à l'Église, on ne peut pas vivre notre vie de chrétien tout seul à l'extérieur. Mais il faut faire attention que ce verset, il n'est pas tout seul dans le texte. Il est encadré par d'autres versets avant et après. Et regardez ce qui est dit juste avant ça. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. Et juste derrière, encourageons-nous mutuellement. Pourquoi ? Parce que abandonner son église, c'est pas simplement ne plus venir le dimanche matin. Ça va peut-être vous surprendre, mais on peut être présent à l'église et avoir abandonné son église. On peut être présent là sur une chaise et pratiquement ne plus faire partie de l'église. qu'on est encouragé à ne pas abandonner l'Église, c'est pas simplement une question d'assiduité, d'être présent là dimanche après dimanche, voire même peut-être les mardis et à toutes les autres occasions qu'on pourrait avoir. Non, c'est le fait d'être impliqué dans l'Église. On est présent pas seulement de corps, assis sur une chaise, mais on est présent avec tout notre être dans l'Église. On est vraiment utile et actif dans l'Église. Vous avez vu, hein, on est encouragé à quoi ? S'encourager mutuellement, mais à veiller les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. Ce n'est pas simplement un encouragement pour se faire du bien, c'est un encouragement à se mettre à l'œuvre. Et c'est le deuxième aspect du corps que je veux aborder avec vous ce matin, c'est que ce corps, non seulement il est uni, mais il est aussi actif. Ce corps, il a un but, une vocation, c'est-à-dire qu'il est appelé à quelque chose. Il est appelé à servir. Il est appelé à se mettre en mouvement. C'est pas le corps de Christ, ce n'est pas juste un cadavre inanimé qui gît au sol, là, qui est allongé par terre. Non, Christ, il est ressuscité. Christ, il est revenu à la vie. Et tout son corps est vivant. Et la première caractéristique d'un corps qui est vivant, c'est qu'il n'est pas immobile. Un corps immobile, justement, c'est la question, le doute qui se pose quand on voit quelqu'un allongé au sol, mais qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi il est allongé par terre ? Est-ce que ce corps a subi quelque chose ? Est-ce que la personne est encore en vie même ? Alors qu'un corps, un corps qui bouge, là, c'est évident. On sait que ce corps est encore en vie, est encore capable de faire quelque chose. Le corps de Christ, là, ce n'est pas les ossements qu'on voit dans la vision d'Ézéchiel, vous savez, où il voit juste des os là, accumulés dans la vallée. Et puis, ben, ces os, ils ne peuvent rien faire d'eux-mêmes. Et il a fallu que Dieu intervienne pour les rassembler, remettre la chair dessus et redonner la vie, et que ces os redeviennent des corps qui pouvaient bouger et agir. Le corps de Christ, il a retrouvé la vie au troisième jour. Et depuis, il ne l'a plus perdue. Et il va la conserver jusque dans l'éternité. C'est déjà apparent dans le verset qu'on a lu tout à l'heure, d'Éphésiens 4, 16. On a insisté sur le fait que tout le corps était solidement uni et coordonné. Mais sur la fin du verset, il disait que ce corps, il tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties. Et il s'édifie lui-même dans l'amour. Il tire sa croissance pas simplement pour grandir, mais il tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties. Chacune des parties du corps, elle a une activité qui lui est associée. Il n'y a pas une partie du corps là qui est complètement figée et qui ne bouge plus. Ça s'appelle la paralysie, c'est une maladie. Un corps en bonne santé, bah, toutes ses parties, elles sont capables de bouger, d'agir et d'être utiles. On l'avait vu lorsqu'on avait dit qu'on était tous chacun un membre différent du corps. On a tous une utilité particulière, on a tous des facultés particulières. Mais il ne faut pas oublier que chacune de ces facultés que nous avons, elle est au service du reste du corps. Le corps entier a besoin de chacune de ses parties, a besoin d'utiliser chacune de ses facultés. Nos corps disposent de l'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher. Il y a ce qu'on appelle la proprioception, c'est-à-dire le fait d'être capable de savoir ce que fait chacun de mes muscles dans mon corps. Je n'ai pas besoin de regarder ma main pour savoir ce que je suis en train de faire. Simplement, mon corps perçoit la position de mes doigts. On a une capacité à bouger, à se déplacer. Mais c'est important, comme je disais au début, de combiner toutes ces facultés-là entre elles pour arriver à atteindre un but encore plus élevé, à arriver à accomplir des tâches encore plus complexes. Lorsqu'on se limite à une seule petite partie du corps, c'est très 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 limité ce qu'on peut faire. Si j'utilise qu'une phalange, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Même si je veux écrire sur une feuille, je suis obligé de bouger toute ma main. Et Paul le disait aux Corinthiens lorsqu'il soulignait l'importance de chacune de ces facultés du corps. Dans le chapitre 12 de la première épître aux Corinthiens, dans les versets 18 à 21, il disait « Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe ? Et s'il était tout entier l'ouïe, où serait l'odorat ? En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. Et s'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps ? Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. Et l'œil ne peut pas dire à la main « J'ai pas besoin de toi », ni la tête dire au pied « J'ai pas besoin de vous ». Le corps, il a besoin de toutes ces différentes compétences pour les associer entre elles au service d'un objectif qui va dépasser en fait chacun des membres pris individuellement. Une main, elle ne peut pas être guidée efficacement avec assurance et précision s'il n'y a pas les yeux qui vérifient exactement ce qu'elle fait. Bien sûr, je peux faire des choses avec ma main sans regarder, mais si j'essaie d'écrire sans regarder ce que j'écris, ça n'aura pas la même qualité que si je suis en train de regarder. Le fait de combiner ma vue avec la capacité de ma main me permet d'arriver à quelque chose d'encore plus efficace. Et dans le corps de Christ, c'est pareil, il faut combiner les différents membres de ce corps pour que ce corps puisse arriver à faire quelque chose de vraiment efficace. Lorsqu'un membre essaie d'agir tout seul, il va être très très limité dans ce qu'il peut faire. Oh, bien sûr, il y a l'Esprit de Christ avec nous. En Christ, on peut tout faire, rien n'est impossible. Oui, mais rien n'est impossible à condition que je sois dans la volonté de Dieu. Et si la volonté de Dieu, c'est que j'agisse avec mes frères et sœurs, ce n'est pas parce que je dis que rien n'est impossible que je vais arriver à accomplir des choses formidables. On peut faire des choses formidables lorsqu'on est dans la volonté de Dieu, lorsque Dieu est avec nous. Et si Dieu a dit que c'est avec ton frère et ta sœur que tu vas devoir agir, tu ne feras pas les choses formidables tout seul. Il faut vraiment que les membres du corps soient réunis pour que ce corps puisse accomplir de grandes choses. Et c'est vraiment ce que Dieu attend de l'Église. Il ne nous a pas donné un but qui était très bas. Il n'a pas mis la barre très basse. Au contraire, quand on lit tout ce que Christ nous a demandé de faire, il a mis la barre très très haute. Regardez la fin de l'évangile de Matthieu. Dans les tout derniers versets de l'évangile de Matthieu, chapitre 28, les versets 18 et 20, Christ dit aux disciples, là, alors qu'il est prêt à remonter au ciel, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Jésus, là, il leur rappelle qu'il va être avec eux, avec son Église, jusqu'à la fin du monde. Mais il n'est pas seulement présent avec eux pour leur faire du bien. Il est présent avec eux pour accomplir la tâche qu'il vient de leur donner. Aller par toute la terre là, pour faire de toutes les nations des disciples. Christ, il est là présent, c'est vrai, partout dans le monde, mais il est là particulièrement au sein de son Église, au milieu de ceux qui sont rassemblés en son nom. Pourquoi ? Pour les aider à accomplir la tâche qu'il leur a confiée. Dans ce qu'il vient de dire, là, Jésus est en train de dire à ses disciples qu'il va être là, présent, pour les assister. Et nous aussi, qui marchons dans leurs pas, qui suivons leur exemple. Parce que cette tâche que Christ leur a confiée, c'est nous aussi qui la portons aujourd'hui. On aime bien mettre en avant le travail formidable que l'apôtre Paul il a fait. Il a fait tout le tour de la Méditerranée, il a évangélisé énormément d'endroits, il a implanté des églises, il a instruit les anciens, il a fait énormément de choses, il a écrit toutes ces lettres qui nous restent encore aujourd'hui. Mais même l'apôtre Paul, il n'a pas agi tout seul. Continuellement, quand vous lisez ses lettres, il fait allusion à tous les collaborateurs qu'il a avec lui. Certains qui l'accompagnent, d'autres qu'il a laissés en charge des églises derrière lui lorsqu'il est parti ailleurs. Certains qui sont à distance et qui prient pour lui, certains qui le soutiennent financièrement. Paul n'a jamais agi tout seul. Même lorsqu'il a commencé son ministère, alors oui, au début, lorsqu'il s'est converti, il était tout feu, tout flamme. Il commençait à vouloir aller expliquer la parole à tout le monde. Mais lorsqu'on voit son ministère vraiment commencer à Antioche, c'est parce que les anciens ont prié pour lui tout seul. Non, ils étaient deux. Voilà, ils ont prié pour Paul et Barnabas, plus tard Paul et Silas. À des moments, il y avait Luc avec lui, à d'autres, il y avait Marc. Paul ne se lançait pas tout seul dans l'aventure. Parce que c'est pas lui qui décidait. Quand on lit les actes, on voit bien que Paul, à chaque fois, il se soumettait à ce que Dieu lui disait. Parfois, il voulait aller quelque part, puis Dieu lui fermait la porte. Puis plus tard, Dieu lui montrait une autre option. Alors, il suivait celle-là, mais comme il suivait la volonté de Dieu, il n'était pas tout seul à la suivre. Dieu avait toujours prévu les différentes personnes qui étaient nécessaires pour arriver à faire ce qu'il y avait à faire. Lorsqu'il implantait une église, oui, on voit les récits de Paul qui évangélise, là, et puis d'un seul coup, des gens se convertissent, ça commence à grandir. Oui, mais il n'était pas tout seul. Avec Paul, il y a Priscille et Aquilas. Avec Paul, il y a Apollos. Avec Paul, à chaque fois, il y a du monde. Paul, c'était un membre de l'Église. Et lui-même dit qu'il n'était pas au-dessus des autres. Au contraire, c'est parce que Dieu se servait de tous ses membres ensemble qu'il a pu faire tout ça, que tout le bassin méditerranéen là, a pu être évangélisé. Et même tout ce qu'on lit dans la parole de Dieu, ça ne s'est pas limité à ça, tout ce qui s'est passé. Même pendant que Paul évangélisait, l'Évangile continue à se répandre ailleurs aussi. Les autres disciples, ils ont continué aussi leur travail. Même lorsque Luc a fini d'écrire les actes, il y a beaucoup de choses qu'il a laissées de côté parce qu'il n'aurait pas pu tout écrire. Même Jean, lorsqu'il a écrit son évangile, c'était sa conclusion de dire « Mais si on écrivait tout ce que Jésus a fait, ça prendrait trop de place. » Alors imaginez lorsque ça a été multiplié par le nombre de disciples et puis que les disciples ont fait d'autres disciples et puis que ça a grossi comme ça exponentiellement. Il y a beaucoup de choses qui ne nous sont pas racontées dans la Bible. Mais le corps de Christ continuait de grandir de partout. Parce que ce n'était pas juste un apôtre tout seul qui faisait tout le travail. C'était le corps entier qui travaillait à tout ça. Oui, ce que Christ attend de nous, c'est élevé comme but. N'importe qui essaie de se représenter ce à quoi on est appelé, il est impressionné. Même parfois, lorsqu'on se concentre sur juste ce que Dieu nous a demandé à nous, on dit, mais c'est beaucoup trop pour moi. Mais c'est aussi une des caractéristiques de la vie avec Christ. On le dit souvent, hein, cette image qui est tirée aussi de la parole de Dieu, qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Et Nathanaël nous a parlé des fruits récemment. Et une des caractéristiques de l'arbre que nous formons, c'est pas juste le fruit lui-même. Si on le lit dans Jean au chapitre 5 et au verset 15, c'est « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Cet arbre-là, on ne le reconnaît pas simplement au fait qu'il porte du fruit, mais au fait qu'il a beaucoup de fruits. Et pour porter ce fruit, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut qu'on soit unis à Christ. Il faut que Christ demeure en nous et nous en lui. Sans ça, vous ne pouvez rien faire. C'est ce que Christ a dit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Même si vous arrivez à porter un tout petit peu de fruits, c'est rien comparé à ce que c'est d'avoir la vie de Christ. Oui, le corps que nous formons, il est appelé à être actif, à être toujours en mouvement, entre guillemets. Pas parce qu'on doit faire de l'activisme, qu'on doit bouger pour montrer qu'on fait quelque chose, mais parce qu'on est appelé à faire quelque chose. Dans Matthieu au chapitre 24, vous avez ces versets qui nous mettent en garde par rapport au retour de Christ. Et moi, je vais le lire rapidement, je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais c'est juste pour vous montrer qu'une chose que Christ attend, c'est qu'on reste actif à son service jusqu'à son retour. Regardez ce qu'il dit donc à partir du verset 36. « Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils. Mon Père seul les connaît. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Et ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Alors, deux hommes seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Deux femmes moudront à la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi responsable des gens de sa maison pour leur donner la nourriture au temps voulu ? Heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à son travail. Je vous le dis, en vérité, il établira responsable de tous ses biens. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », il s'y se met à abattre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le punira sévèrement et lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, ce qui m'intéressait, ce n'était pas tellement le côté de voir la mise en garde par rapport au retour de Christ, mais c'est surtout cet aspect-là, que le serviteur que Christ attend, c'est celui qui sera actif, qui restera à l'œuvre jusqu'au bout. Parce que la tâche que Christ nous a confiée, ce n'est pas une tâche, hop, j'ai ma to-do list, là, vous savez, il y a les cases à cocher, hop, ça j'ai fait, c'est bon. J'ai rempli les différentes cases, maintenant je m'arrête et puis j'attends. Non. Parce que même si vous ne voyez pas toutes les cases, il y en a d'autres qui se rajoutent un peu après. C'est un peu comme si vous n'aviez pas toutes les pages à la fois, vous savez, on vous donne juste la première page, ah, il y a ça à remplir, c'est bon, j'ai rempli, ah ben oui, mais il y a la suivante après. Ah, mince. Faut continuer. Ben, le corps de Christ, il a une grosse tâche immense qui est de porter la parole au monde entier. Alors moi tout seul, je vais pas pouvoir le faire. Mais il faut que ce corps il continue de remplir cette tâche. Et c'est ma conclusion pour vous ce matin, c'est que on a cette tâche là qui nous a été donnée qui dépasse ce qu'on peut imaginer, ce qu'on peut envisager par nous-mêmes. Mais voilà, Christ a voulu que son corps soit actif pour remplir cette mission-là. Et pour remplir cette mission, ben, il va falloir que ce corps il soit uni. Il va falloir que ce corps il travaille de concert. Et faire partie du corps de Christ, ce n'est pas simplement avoir rendu témoignage le jour du baptême, hop, j'étais plongé dans l'eau, ou alors même... J'ai rempli le formulaire pour être membre de l'association cultuelle. C'est pas ça, être membre du corps de Christ. Être membre du corps de Christ, ça implique beaucoup plus. C'est vraiment le symbole de cette unité qui est entre nous. C'est la communion fraternelle qui est entre nous. C'est le fait de travailler ensemble à un même but. Et c'est vraiment ces encouragements qu'on peut avoir les uns pour les autres à travailler avec ce même objectif. Parfois, un de mes frères, une de mes sœurs, ou même un groupe, va travailler à quelque chose à quoi je ne suis pas appelé moi-même, mais je suis quand même appelé à les encourager dans ce qu'ils font. Alors, à prier pour eux, pour les soutenir. Je suis appelé finalement à être impliqué dans beaucoup de tâches, même celles auxquelles je ne contribue pas directement avec mes mains ou avec ma voix. Non, je peux continuer à soutenir le corps de Christ de plein de manières différentes. Christ, il nous a réunis, là, c'est pas juste pour faire un club de sympathisants, mais c'est vraiment pour faire un corps actif, engagé, au service du Maître. Et cette vocation générale qu'il a donnée à son corps, ben, elle se traduit aussi d'une manière spéciale pour chacun d'entre nous, à condition qu'on y travaille ensemble. Alors que Dieu nous aide vraiment à entretenir cette unité, cette communion entre nous, pour que ben, chacun de nos talents puisse s'exprimer en coordination, en synchronisation avec les autres dans l'Église. Que tous nos talents puissent s'unir, se mélanger pour former quelque chose d'encore plus grand et d'encore plus utile entre les mains de Christ. Et c'est lorsque on est vraiment unis comme ça qu'on peut arriver à remplir cette tâche formidable que Christ nous a laissée d'évangéliser la terre entière. Amen. Oui, Seigneur, nous te bénissons parce que lorsque tu nous as rachetés, lorsque tu nous as pardonnés, tu ne nous as pas laissés chacun isolés dans notre coin, mais tu nous as rassemblés pour former ton corps, Seigneur. Et aujourd'hui, c'est notre désir d'être ce corps uni en Christ, ce corps uni dans un même esprit, ce corps qui va pouvoir être utile, qui va pouvoir se mettre à ton service, Seigneur mon Dieu. Oh, aide-nous vraiment à cultiver, à entretenir cette unité, cette communion entre nous, Seigneur mon Dieu, pour que tu puisses te servir de nous comme bon te semble, Seigneur, que tu puisses te servir de chacune de nos compétences pour les mettre au service d'un but encore plus grand, un but qui nous dépasse, chacun d'entre nous, Seigneur mon Dieu, un but qui est à ton échelle, à toi, Seigneur mon Dieu, non pas à la nôtre, si petite, mais vraiment à ton échelle, Seigneur, cette échelle immense, extraordinaire, qui nous dépasse et que nous ne sommes même pas capables de comprendre et d'imaginer, Seigneur mon Dieu. Oui, unis-nous dans ce même esprit, cette même vie, cette même puissance en toi, Seigneur, par cet esprit de Christ qui a été répandu en chacun d'entre nous, Seigneur. Sois béni, Seigneur mon Dieu. Amen.